cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 100% locale Cultivons notre jardin. Cette émission vous est présentée par Nat et Jackie et nous vous parlerons entre autres de jardin au naturel, mais pas seulement. Hein. On peut bifurquer un petit peu.
On peut déborder.
Bonjour Nat, tu as déjà parlé, mais je peux quand même te demander comment ça va.
Ça va bien, merci. Et toi Jackie?
Eh bien écoute, ça va bien, le temps est idéal, et puis tout va bien parce que l'hiver est bien derrière nous maintenant et on se régale.
De quoi on va parler aujourd'hui? Ah si, on a une question d'auditeur quand même, hein, parce que là ça commence à affluer les questions d'auditeurs. Hein. Merci les gens, c'est sympa, ça nous permet d'aborder des sujets sur lesquels on n'aurait pas forcément pensé à faire un petit truc. Alors voilà, donc une question d'un auditeur fidèle et qui nous dit « Bonjour, j'ai un vieux cerisier dans mon jardin qui depuis quelques années se couvre de lierre. Il demande si ce lierre ne risque pas d'étouffer son cerisier. »
Alors ça, c'est une idée hein, souvent qui a été mise dans les têtes. Hein, c'est l'hier qui tuerait tout. On confond souvent la cause et la conséquence, hein, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Comme ça, il faut essayer de voir quelle peut être la cause, quelle peut être la conséquence. Pourquoi on dit ça? Parce que souvent, sur des arbres morts, le lierre a complètement colonisé.
Oui.
Et donc, c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Ce n'est pas le lierre qui a tué l'arbre, c'est le lierre qui est monté sur un arbre qui était mort. Alors, sur des vieux arbres, ça arrive aussi souvent que le lierre puisse monter. Le lierre s'en sert comme support. Il ne parasite pas, donc il ne va pas puiser dans la sève de l'arbre, comme pourrait le faire le gui, par exemple. Mmh. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas trop embêtant. En règle générale, de toute façon, quand le lierre va plutôt se développer sur la vieille écorce et laisser tranquille les petites branches, justement, où il y a de la vie, parce qu'on imagine bien, une petite branche va grossir. L'écorce, même si nous, on ne le voit pas, va bouger. Et une plante va avoir du mal à s'installer sur de l'écorce qui bouge. Donc, c'est naturel, ça. On peut tout à fait bien laisser ça se faire. Il y a beaucoup de fausses idées sur le lierre, hein, qui est souvent un ennemi pour les gens. Il faudrait considérer ça tout à fait autrement. C'est un grand ami pour la nature, pour tout ce qui est petite bestiole.
Oui.
Justement, on a parlé dans l'émission précédente d'abeilles solitaires. Il y a une abeille qui est entièrement dépendante du lierre et qui ne va vivre à l'extérieur que pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, elle va butiner les fleurs de lierre. Elle est spécialisée là-dedans. Et ensuite, donc, elle va pondre, etc. Et en fait, son stade larvaire va durer quasiment 11 mois. Et l'insecte adulte ne ressortira que quand le lierre sera en fleurs. Donc, intéressant de savoir que ce lierre, ben non, ça ne détruit pas les murs, etc. Je fais référence à un livre qui m'a beaucoup plu. C'est une série qui existe depuis très longtemps. Ça s'appelle La Hulotte. C'est un petit fascicule comme ça qui est édité dans les Ardennes, à Boult-au-Bois. Vraiment, il y a un numéro spécial sur le lierre. Vous apprendrez des choses remarquables là-dessus et de bon sens. Je vous conseille de le lire.
Voilà. Ouais, La Hulotte, effectivement, un support très intéressant. Alors, la dernière fois, alors juste pour conclure cette question d'auditeur, donc vous avez bien compris, cher auditeur Mandois, vous pouvez laisser votre lierre sur votre cerisier, pas de problème, au contraire, même laissez-le puisqu'il n'abîmera pas votre cerisier et il permettra aux insectes de s'installer dans votre jardin, comme nos fameux auxiliaires du jardin dont nous avons parlé tout au long de la dernière émission, Jackie, que tu n'avais pas fini parce que tu as trop de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?
Eh bien oui, comme je l'ai dit la dernière fois, on va revenir effectivement sur les petites bêtes. Avant, je vous parlerai de la pratique, hein, toujours, dans la rubrique « Affaires au jardin ». Et puis, donc, je continuerai le sujet qu'on a initié la dernière fois, les auxiliaires du jardinier. J'avais parlé des insectes utiles au jardin, mais le sujet est beaucoup plus vaste. Aussi, je te propose de continuer sur cette thématique avec d'autres animaux. Et de ton côté, Nat, tu nous as bien préparé un petit sujet.
Oui, j'ai un peu travaillé aussi. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de l'invasion des chenilles processionnaires du pin. Je suis sur les invasions en ce moment. Et maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de l'envahissement de l'ambroisie, qui est une plante... voilà, on vous racontera ça en fin d'émission avec Jackie.
Cultivons notre jardin.
Alors, revenons à nos jardins. Qu'est-ce que nous pourrions bien faire en ce moment? Jackie, raconte.
Alors, toujours avec ma lune, hein, toujours mon calendrier lunaire pour me repérer un petit peu dans le temps et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la quinzaine qui vient. Alors, dimanche et lundi, là, ce sont deux bons jours pour semer des légumes fruits. Les 15, 16 et 17 mai, on peut semer des légumes racines et on attendra le 20 mai pour semer des légumes feuilles.
Bien, chef.
Personnellement, je vais semer mes haricots le 21, qui est en jour fruit. Hein. Traditionnellement, on dit qu'on sème les haricots à la Saint-Didier, qui est le 23.
Voilà.
Mais ça donne une période.
Oui.
Et le 21, par rapport à la lune, c'est idéal. C'est à ce moment-là que je vais le faire.
D'accord.
Et que je vous conseille de le faire.
OK.
Alors, nous, on est au mois de mai, là, et on ne craint plus, normalement, vraiment les gelées. En principe, on est... Après les Saintes Glaces, hein, les Saintes Glaces qui sont les 11, du 11 au 13, hein, 11, 12, 12 et 13, 13 cette année. Ce sera donc après ça, ce sera vraiment le moment de sortir les plants qu'on aura préparés à l'abri. On va voir dans tous les jardins les pieds de tomates et de cucurbitacées qui vont prendre une place de choix comme d'habitude. J'en profite pour vous rappeler qu'une fois planté, il faut pailler pour limiter l'évaporation d'eau. Et souvenez-vous que des tomates bien paillées ne demanderont pas d'eau de l'été. Je viens de l'inventer, ce proverbe, je vais essayer. Et vous m'en direz des nouvelles.
Oh bah déjà, c'est un proverbe qui rime, alors hein, c'est bien, Jackie, bravo.
Hein, il y a du travail derrière.
Je comprends, une réflexion intense. Et si tu nous parlais à nouveau de tes petites amies bêtes du jardin.
Eh bien voilà, alors au cours de l'émission précédente, j'ai parlé des insectes bénéfiques. Hein, au jardin, et je n'avais pas eu le temps de parler d'autres animaux bien utiles.
Les girafes. Alors,
je vais essayer d'en placer quelques-uns, si je ne suis pas interrompu. Alors, il y a les prédateurs carnivores, par exemple. Hein. Ils vont supprimer les bestioles en surnombre, donc comme les mille-pattes ou les araignées, hein, qui sont bien utiles. Oui, je ne les ai pas classés dans les insectes, hein, ce n'est pas une erreur. Hein, les mille-pattes, c'est des myriapodes et les araignées, c'est des arachnoïdes. Donc, parce qu'il n'y a pas un même nombre de pattes. Hein. Un insecte, c'est simplement trois paires de pattes et deux antennes.
OK.
Il y a aussi les acariens, hein, parmi lesquels on compte aussi bien des décomposeurs que des prédateurs. Le cloporte, on peut parler du cloporte, c'est
ouais,
le seul crustacé
plein, ouais.
Terrestre.
C'est vrai que c'est bien crustacé. Ouais.
Et oui. Alors, il consomme des végétaux morts. Hein, donc, on pourra le trouver, comme tu disais, au compost, effectivement, puisqu'il il a un rôle à ce niveau-là. C'est un animal nocturne qui préfère les endroits sombres et humides pendant le jour.
C'est pas bien joli, le cloporte.
Ah, alors, méfions-nous encore de ces délits de faciès.
Pas comme la
pour moi, tous ces insectes qui sont utiles sont merveilleux.
Et on ne se fie pas qu'à leur apparence. Bah d'ailleurs, en termes d'apparence, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des vers de terre qui sont a priori pas bien beaux?
Eh oui, mais là, bien sûr, ce sont de précieux auxiliaires. Si tu maintiens bien le sol de ton jardin toujours couvert, que ce soit par des légumes, des engrais verts ou du paillage, ils se chargeront d'aérer le sol et rendront inutile le bêchage en profondeur, qui d'ailleurs est mauvais aussi pour eux, hein, au passage.
Bien sûr, un coup de bêche, ça fait pas de bien. Hein.
Voilà. Quand on veut néanmoins aérer son sol, eh ben on utilisera plutôt la fourche bêche ou encore mieux, la grelinette qui nous permettra de déplacer le sol.
Eh oui. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples un petit peu étonnants avec ces drôles de bestioles?
Eh bien, écoute, peut-être, je vais essayer. Sais-tu que l'oxychil a odeur d'oignon?
Vas-y, développe.
Qui est un petit escargot. Et puis la testacelle blanche. Alors là, c'est une limace terricole. Ben, tous les deux, ce sont des mangeurs de limaces.
Une limace qui mange une limace?
Oui, et un escargot qui mange des limaces, voire d'autres escargots.
Je croyais que ça n'existait pas, ça.
Eh bien, voilà. Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ignore dans la nature.
Dingue.
Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il se régale surtout quand on a des limaces ou des escargots en surnombre. Toujours cette histoire que la nature régule. Mm. Parmi ces auxiliaires, on peut compter aussi des batraciens.
Des grenouilles.
La grenouille verte, ouais. Le crapaud.
Hein, oui.
Le crapaud commun qui, eux deux aussi, ils vont manger des insectes et des limaces.
C'est tellement mignon, un crapaud.
Mais ça dépend, hein. Il y en a, quand on a les petits crapauds, les alites, là, par exemple, hein, qui sont les crapauds accoucheurs, quand on en voit, qu'on en tient dans la main, c'est vraiment très, très mignon. Hein.
Ah, je ne pensais pas à cela.
Voilà, oui.
Je pensais aux gros crapauds baveux, moi.
Gros baveux, oui. Mm. Alors, on n'y pense pas assez, mais les reptiles aussi peuvent nous aider à gérer des surpopulations, que ce soit les lézards, les orvées ou les couleuvres. S'ils trouvent des endroits tranquilles au jardin, ils peuvent nous aider toujours à réguler, hein, quand on a des proportions trop importantes de tel ou tel ravageur.
Ouais, ça, je peux te garantir que les couleuvres, elles ont trouvé un endroit tranquille dans mon jardin. Moi, je ne sais pas où, mais je vais les laisser. Promis, voilà. Jackie, promis.
Voilà, c'est bien.
Et les oiseaux, on n'en a pas parlé des oiseaux.
Eh bien oui, alors là, c'est encore un vaste sujet. Hein. Il peut y en avoir beaucoup. On va en parler de quelques-uns. Le rouge-gorge, qui trône toujours sur un manche d'outils ou sur un tas de bois. Il y a les mésanges, ce soit les mésanges bleus, noirs, charbonnières, nonnettes ou les mésanges jupées.
Oui.
On va voir au jardin aussi le rouge-queue ou la citelle torche-peau. Moi, je les fidélise l'hiver grâce aux graines de tournesol dans la mangeoire. Et je dispose des nichoirs pour qu'ils puissent se reproduire plus facilement. Quand ils ont les petits, c'est le moment de la prolifération des pucerons, des chenilles et autres indésirables. Donc, je peux compter sur eux à ce moment-là pour me réguler ces insectes, toujours en surnombre.
Allez, au boulot les oiseaux.
Eh oui.
Bon, on a fait le tour ?
Il reste quand même quelques mammifères.
Oui.
On n'en a pas parlé, comme la petite musaraigne,
oui.
Hein, qui va manger aussi des insectes. Le gentil hérisson,
oh,
par
ouais,
exemple, aussi.
Hein,
c'est un beau symbole du jardinier.
Oui.
Mais aussi, ce sont des animaux bien utiles au jardin. Et si je n'hésite pas à laisser dans un coin un tas de feuilles, un tas de branches coupées, un parpaing ou deux, je leur créerai des gîtes où ils pourront passer l'hiver tranquille et être présents quand il le faudra. Je dois toujours penser à faire rentrer la biodiversité au jardin. Ça ne peut être que bénéfique à terme.
Et t'as déjà vu un hérisson courir, Jackie ?
Non, pas
jusqu'à maintenant.
Ah, c'est
super drôle. J'en ai vu un une fois. Et en fait, il a des petites pattes, le hérisson. Et bon, cette andouille, il s'était mis sur la route. Donc moi, je me suis arrêtée. Puis j'ai voulu le rabattre un peu plus vers la nature. Bon, du coup, quand il m'a vu arriver, il s'est mis debout sur ses petites pattes et il s'est mis à courir. Bon, c'est super drôle. Bon, là, c'est... C'est un peu ridicule, cette histoire. Bon, enfin, voilà, c'est complexe, mais c'est aussi passionnant, toutes ces histoires d'insectes, d'animaux auxiliaires du jardin. Hein.
Ben oui, il faut bien comprendre que cette lutte biologique est très complexe, effectivement. Hein. Une espèce animale ou une plante, si utile qu'elle soit, peut devenir invasive si elle n'a pas d'ennemis ravageurs servant à réguler et contrôler son développement. L'espèce invasive prend alors souvent la niche écologique occupée par une espèce rivale. Chacun peut avoir en mémoire les soucis occasionnés par la coccinelle de Chine, la tortue de Floride, et dernièrement le frelon asiatique.
Ben oui.
Donc en détruisant un animal dit nuisible, nous pouvons éliminer aussi un régulateur d'une espèce auxiliaire. Il pourrait devenir aussi envahissante, voire ravageuse. C'est toute la complexité, là. Hein. Comme par exemple le loup avec les sangliers. Hein. Voilà, je vais pas développer ça, mais j'espère que tout le monde a bien compris. Voilà, entre une espèce et l'autre, un prédateur, s'il disparaît, c'est l'autre qui pullule.
Bien sûr.
Et donc, déséquilibre. Les auxiliaires sont, comme beaucoup d'autres animaux, des opportunistes, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut penser à leur aménager des caches, des abris ou des nichoirs, afin de les faire venir et de les fidéliser, surtout dans votre jardin, quelle qu'en soit la taille. Vous pouvez faire beaucoup pour participer à la préservation de la biodiversité, même si votre jardin est tout petit. C'est à tout le monde qu'on y arrivera. J'en profite pour rappeler aux auditeurs qui voudraient avoir entre les mains le fascicule des auxiliaires du jardinier qu'ils peuvent téléphoner ou écrire à 48FM pour donner une adresse mail. Et après, on leur enverra le document PDF. On précisera en fin d'émission les coordonnées pour nous joindre.
Oui, merci Jackie pour ces ressources que tu mets à disposition.
Bon, il faut quand même que je te laisse la place. Et...
Ah oui, pour une fois.
Et
c'est...
Et j'ai quand même pas mal introduit avec mon histoire d'invasive.
Oui, hein, absolument.
C'est à toi de nous parler d'un sujet donc moins positif, mais tout aussi intéressant. Une plante avec bien peu de qualité, mais très invasive, l'ambroisie.
Ouais. L'ambroisie, elle arrive dans le coin et il est important de bien la connaître car elle aussi, en termes de santé publique, peut présenter des risques importants. Il faut savoir que l'ambroisie, donc, c'est une plante invasive dont le pollen est particulièrement allergisant. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région la plus touchée de France par cette infestation. L'impact de ces pollens est en pleine augmentation. En fait, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a démontré dans les zones fortement infestées un doublement du pourcentage de personnes allergiques à l'ambroisie au cours de ces 10 dernières années. Voilà. On a priori affaire à une combinaison pollution de l'air et pollen qui rend les pollens beaucoup plus agressif, en fait. Voilà. Donc, il faut savoir que le coût de l'impact sanitaire de cette allergie, consultation chez le médecin, médicaments, arrêt de travail, désensibilisation, etc., sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, est estimé, par exemple, pour l'année 2016, à 23 millions d'euros et concerne 400 000 personnes. Donc, c'est vraiment pas rien, cette ambroisie. Donc, elle est en train d'arriver chez nous. Et ben voilà, il faut commencer à comprendre, à la connaître et à réagir. Voilà, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui organise la lutte contre cette plante allergisante là en Rhône-Alpes. Car la population peut, en cas d'exposition, développer des manifestations symptomatiques de l'allergie. Donc, respiratoire, hein, la classique allergie au pollen, sauf que là, elle est un petit peu exacerbée, on va dire. Donc, des problèmes respiratoires, des conjonctivites, ça, voilà, elle peut être, c'est un pollen qui peut être urticant, qui peut provoquer de l'eczéma. Et ces réactions peuvent conduire à un processus inflammatoire chronique allant jusqu'à l'apparition ou l'aggravation de l'asthme. Donc, ces symptômes sont d'autant plus importants que la quantité de pollen dans l'air va être forte. Voilà.
Heureusement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous, on est, il y en a encore pas beaucoup de cas en Lozère.
Ouais, mais on n'a pas la chance d'avoir des sols aussi pollués, je crois, voilà, que la région Rhône-Alpes, en fait.
Mais bon, comme on est, comme toute façon, on est entouré quand même par cette invasion, ça viendra inexorablement. Hein.
Oui, on y reviendra. De toute façon, oui, elle va s'implanter. Elle a tendance à aimer s'implanter sur les sols pollués, l'ambroisie, parce qu'elle joue un rôle, effectivement. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine émission, hein, sur les plantes bio-indicatrices. Elles ne sont pas là par hasard. Voilà. Mais en attendant, l'ambroisie arrivant, il paraît très important de reconnaître cette plante. Alors là, comme ça, à la radio, c'est pas facile. Donc, je vous invite fortement à aller consulter des photos sur Internet. Mais quand même, nous allons vous donner quelques caractéristiques qui devraient pouvoir vous aider. Voilà. Même si sa morphologie va se transformer au cours de son développement. Au départ, on a 2-3 petites feuilles collées au sol. Et au moment de la floraison, l'ambroisie peut atteindre... La taille d'un buisson de plus d'un mètre de haut. Hein, donc bonjour les allergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ces feuilles sont caractéristiques. Elles sont profondément découpées sur deux feuilles découpées. Elles sont vertes sur les deux faces.
Et ça, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ressemblent, voilà, mais qui n'ont pas la même couleur sur une face et sur l'autre. Hein. Voilà, c'est vraiment très, très caractéristique.
Comme l'armoise, puisqu'a priori, c'est la première plante avec laquelle on peut confondre l'ambroisie. Et évidemment, les deux noms sont proches aussi, alors bonne chance. Alors, sauf que l'armoise, elle est blanchâtre, la feuille dessous, et elle a une odeur prononcée. Alors que l'ambroisie, elle, est verte des deux côtés et ne sent rien. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une caractéristique de l'ambroisie que n'a pas l'armoise, c'est que la tige est plutôt rougeâtre, et la tige de l'ambroisie, et elle peut être couverte de poils blancs. Voilà.
Mais là, de toute façon, à partir du moment où on n'en a pas beaucoup, ce qui serait très intéressant, c'est d'essayer de le repérer. Hein, oui. Donc moi, je suis tout à fait pour, comme tu disais, chercher des photos sur Internet, etc. Oui. À la limite, pourquoi pas envoyer des photos, hein, si vous en avez. Nous, on pourra regarder ça aussi.
Ah oui, ou si vous avez un doute.
Par mail, vous pouvez en envoyer. Parce que, et justement, je pensais à la Fredon, là aussi.
Oui, tu as raison de penser à la Fredon.
On peut aussi faire une espèce d'enquête en Lozère, hein, si, pourquoi pas mener ce genre de truc et informer, donner des endroits précis.
Oui.
Je pense que c'est un sujet dont il va falloir de toute façon s'occuper, prendre ça à bras le corps. Mm. Et en fait, on peut être tous, on est tous concernés. Et au lieu de payer des fois des études qui coûtent un argent fou, eh ben, on peut être citoyen en essayant aussi d'amener notre pierre à l'édifice et de rechercher ça un petit peu, pourquoi pas, dans les balades, dans les choses comme ça. Et si vous voulez qu'on vous aide, eh ben, vous pouvez toujours communiquer avec la radio.
Oui, effectivement. Alors par contre, Jackie, la Frodon a commencé à organiser la lutte en fait sur l'Ambroisie. Mmh. Et si jamais vous en croisez, donc on va vous expliquer ce qu'ils font faire, mais si vous en croisez, ce qui est important, c'est de le signaler. De le signaler soit à votre commune, soit à la Frodon Occitanie, ou sinon à l'Agence régionale de santé, tout simplement. Et si vous en croisez, la méthode qui est préconisée, c'est l'arrachage direct et laisser la plante sur place. Alors ça marche tant que la plante n'a pas fait de fleurs.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Si vous voyez avec une ampe florale même qui est en train de se faire,
oui.
Tant qu'elle n'a pas fleuri, c'est très bien. Donc, on peut mettre tout ça dans un sac, etc. Bien, quand je dis dans un sac, ça veut dire un sac plastique et bien serré comme ça.
Comme les chenilles.
Quand ça, malheureusement, quand ça a grainé, alors on peut essayer hein, de récupérer, même si c'est en fleurs, pour que ça graine le moins possible.
Hein.
Ouais. On peut avoir une action comme ça. Mais attention, parce que c'est toxique. Donc,
oui, alors là, attention,
pas, là
danger.
Aussi, on ne joue pas les apprentis sorciers. Hein.
Alors, ce que nous conseille l'ARS et la Frodon Occitanie, c'est d'éviter les interventions lorsque l'ambroisie est en fleurs.
Voilà.
Ou, si jamais vous êtes amené à le faire chez vous, eh ben, il va falloir vous protéger, en fait. Si vous voulez arracher, ben, auparavant, vous allez vous équiper de gants, de lunettes et d'un masque. Particulièrement lorsque l'ambroisie est en période de floraison. En fait, ça, c'est exactement les mêmes conseils sur les nids de chenilles processionnaires. Voilà. On se protège au niveau de la respiration, des yeux et au maximum la peau. Voilà. Hors période de floraison, les conseils nous disent qu'une paire de gants suffit. Mmh. Voilà. Si vous avez un doute, équipez-vous. La lutte contre l'ambroisie, donc, c'est l'affaire de tous, comme tu le disais, Jackie, effectivement. Et c'est quand même une plante qui est en train de s'installer dans la durée. Et nous devons apprendre à la reconnaître et à être vigilants. C'est important.
Oui, c'était l'affaire de tous. Hein, on était là-dessus, en fait. Hein.
Voilà. Ensemble, nous devons empêcher l'ambroisie de conquérir de nouveaux espaces et limiter sa floraison pour réduire l'impact sur la santé de nos proches et des générations futures, évidemment. Alors, actuellement, la lutte contre l'ambroisie est cadrée par des arrêtés préfectoraux dans chaque département. Et ceci rend obligatoire la destruction de l'ambroisie. Voilà.
Espérons donc, que ce sera suffisant.
Voilà. N'oubliez pas, si vous en croisez, de bien vous équiper, arracher et laisser sur place, ça c'est le conseil. Et ensuite, vous signalez bien sa présence de l'ambroisie, donc soit à la Frodon Occitanie, ou bien à votre mairie, ou bien sur une plateforme interactive de signalement de l'ambroisie sur Internet. Ça s'appelle signalement-ambroisie.fr. Vous pouvez également y aller pour avoir un maximum d'informations et voir des photos d'ambroisie à différents stades de développement.
Et ben voilà, je crois qu'on a été un petit peu complet sur l'ambroisie. De toute façon, c'est quelque chose à suivre. Hein.
Oui.
On vous en reparlera. Pour la prochaine émission, et ben, on va continuer dans la pratique. On espère que vous enverrez aussi des questions. Et puis, ben, ce sera la surprise pour les sujets qui, pour l'instant, sont pas préparés. Mais, voilà.
Tu vas arrêter de nous parler de tes bêtes ?
Ben, normalement, on a fait à peu près le tour des auxiliaires du jardinier, j'espère.
Aha.
Mais justement, il peut aussi y avoir des questions des auditeurs là-dessus.
Oui.
N'hésitez pas.
Voilà, c'est une bonne idée.
Cultivons notre jardin.
Alors maintenant, un petit tour sur le calendrier des activités de jardinage. On avance en saison. Donc, le samedi 11 mai à Ispagnac, un petit rappel, Sophie Lomonier animera un atelier sur les plantes sauvages comestibles pour Jardin Nature 48.
Alors, ben, toujours le samedi 11 mai, dans le cadre du permis de végétaliser organisé par la ville de Mende, nous vous attendons à 14h, salle des associations, place du Foirail, pour commencer à nous organiser pour nos jardins, etc., etc.
Le 16 mai, à la ressourcerie sur le Causse d'Auge, un atelier réparer son vélo et un atelier apprenons à coudre ensemble, ils seront organisés par la récup.
Toujours dans le cadre du permis de végétaliser, le samedi 11 mai, donc, nous avons vu que nous nous réunissions salle des associations sur le foirail pour nous organiser. Eh bien, ensuite, passons à la pratique. Le samedi 18 mai à Mende, ce sera l'installation des jardins des incroyables comestibles.
Le 25 mai, à Rousse, dans les Cévennes, se déroulera le traditionnel troc plantes et marché artisanal à partir de 10 heures.
Et ce même samedi 25 mai, dans le cadre du permis de végétaliser, j'insiste hein, quand même, tu as noté, Jackie. Donc, samedi 25 mai, sous la halle au blé à Mende, un troc plante sera organisé par la ville de Mende, l'association Jardin Nature 48 en tant que partenaire. Et voilà, l'idée, c'est de compléter les petits jardins que nous aurons installés le samedi précédent un petit peu partout dans la ville.
Et bien voilà le point fait sur les activités. Sachez que cette émission Cultivons notre jardin est diffusée régulièrement le vendredi et le samedi à 11h et à 17h10.
Cultivons notre jardin.
Voilà, nous espérons que cette émission vous aura énormément plu, comme d'habitude. Vous pouvez toujours réagir et nous laisser vos messages et vos questions par courriel à redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio. Donc pour réécouter nos émissions, elles sont toutes disponibles dans la rubrique chronique du site internet de 48FM, la radio sans OGM, sur 48fm.org. Et voilà, et pour la petite chanson de fin d'émission, puisque Jackie nous tarabuste depuis deux émissions avec ses bébêtes au jardin, je me suis vengée, je vous ai dégoté une perle d'Annie Cordy, la bébête. À bientôt Jackie.
À bientôt, bon jardinage à tous, et puis on a déjà hâte de vous retrouver.
Le carnaval battait son plein au rythme fou des tambours sous une pluie de confettis de serpentins. Lorsque soudain un cri d'effroi jeta partout le désarroi, c'était la voix de la divine Conchita. Ah ! Mon Dieu ! Maman ! La bébête ! Attention la bébête ! La vilaine bébête ! Attrapez la bébête ! Prenez bien garde à la bébête ! Un vieux poivreau sur un tonneau qui cuvait quelques coups de trop en est tombé sur le pavé, le cul dans l'eau. Il s'est mis à hurler de sa voix plutôt avinée sans vraiment bien réaliser ce qui se passait. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? C'est... Attention la bébête. La vilaine bébête. Attrapez la bébête. Prenez bien garde à la bébête. Monsieur le curé qui passait en fut tellement bouleversé qu'il récita quatre pater et trois ave. Une rosière de 60 ans qui n'avait plus toutes ses dents très excitées s'est approchée en s'écriant « D'où j'ai vu l'affreuse chose ? Je n'ai jamais vu ça ! Attention la bébête, la vilaine bébête, attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête !» Téléphone aussitôt aux pompiers qui furent là bientôt avec la pompe, la grande échelle et les tuyaux. Le chef ordonna sur le champ à tous ces hommes vivement de s'attaquer à ce fléau tambour battant. Gaga gaga ga, garde à vous. Anana 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 anaba. Attention la bébête, la vilaine bébête. Attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Quand les gendarmes sont arrivés emmenés par leur brigadier, on a pensé que les choses allaient s'arranger. Dans la pagaille qui régnait, chacun croyait l'avoir passé. Oui, mais jamais personne n'a pu l'attraper. Aïe ! La voilà ! Je la vois ! Au secours ! Ah ! Attention la bébête, la vilaine bébête. Attrapez la bébête.